Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec.
Alors, j'ai le grand plaisir de recevoir le candidat à la mairie de Montréal, le chef du parti Ensemble à Montréal, M. Denis Coderre, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur les ondes de CKUT, l'émission Samedi Midi Inter.
C'est toujours un plaisir, Raymond. Ça va bien, ça que passe.
Naboulé. Et comment ça va de votre côté?
Ah, c'est petit, mais ça va. Non, ça va bien. Honnêtement, ça va très bien. On rencontre les gens. Je suis toujours sur le terrain. Mes amis chauffeurs de taxi sont toujours là. Et puis mes meilleurs ambassadeurs. Alors, on va voir les gens de la communauté. On rencontre les communautés. Et puis, on sent un beau vent de changement, là. Les gens veulent que Montréal se retrouve.
Comment ça s'annonce votre campagne, M. Coderre?
Bien, comparativement à 2017, je vais vous dire que ça va très, très bien. C'est qu'on a une équipe formidable. On a une équipe qui a de belle diversité. On parle de parité homme-femme. On a des gens qui, pour la première fois, se présentent suite à la pandémie parce qu'ils veulent redonner au suivant. C'est comme si on était à la croisée des chemins. On ne prépare pas juste la prochaine élection. On prépare la prochaine génération. Et puis, beaucoup de gens se sentent laissés pour compte. Et c'est pour ça que le vivre ensemble qui nous caractérise, c'est une des raisons pourquoi que j'ai décidé de revenir. J'ai l'impression qu'on n'est pas dans un Montréal pour tous les Montréalais et toutes les Montréalaises. Donc, il y a des problèmes de sécurité, des groupes, des problèmes de violence. Alors, j'ai voulu reprendre la capacité de redevenir maire. Évidemment, ça se mérite, hein? On ne prend rien pour acquis. Mais je sens là qu'il y a vraiment un bel enthousiasme sur le terrain.
Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites aux dernières élections que vous n'aimeriez pas répéter, M. Coderre?
C'est-à-dire que, Raymond, dans un premier temps, il faut se rappeler où on était en 2013. Et on parlait de corruption. Montréal n'était plus pertinent. Montréal n'était plus un joueur. Et on a tout changé ça. C'est sûr que quand on travaille pendant 4 ans, comme si on en travaillait pendant... On a fait tout ça en 15 ans. Et étant très, très présent, on peut en échapper des fois. Donc, c'est clair que c'est pas tout le monde qui était d'accord. Il y avait aussi, vous souvenez, les régimes de retraite qu'on devait renégocier, le saccage à l'hôtel de ville. Tout était à refaire. Alors, des fois, quand on veut faire les choses, on peut piler sur certaines orteils et puis c'est pas tout le monde qui sont d'accord. Mais nous, ce qu'on préparait, c'est toujours comme aujourd'hui. Montréal, à l'époque, était à la croisée des chemins et puis il y avait tellement un beau rayonnement à cette époque. La diplomatie urbaine, vous vous souvenez, mon premier voyage, même, c'était à Port-au-Prince. Donc, c'était de se dire que tout le monde avait une place au soleil et que c'était pour tout le monde. On voulait pas laisser personne pour compte. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, les gens, il y a des gens qui peuvent être choqués, frustrés et puis, malheureusement, avec un 42% de vote, même s'il y avait 64% de taux de satisfaction, ben on en a manqué un petit peu et puis j'ai perdu l'élection, mais la population a raison. Donc, c'est sûr qu'on va faire les choses autrement parce qu'on veut gagner, mais je pense qu'il faut regarder la conjoncture et les enjeux de l'époque, l'environnement dans lequel on était, pour se rendre compte que Montréal est devenu extraordinaire et une métropole francophone fantastique et que malheureusement, là, ce ne sera pas un référendum sur ma personnalité. Les gens vont voir ce que j'ai accompli, mais ils vont surtout donner leur point de vue sur les 4 ans qu'on a vécu avec l'administration actuelle. Donc, ça va nous faire plaisir d'être l'alternative. Les gens, ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas qu'on chicane et qu'on se traite des noms. Moi, je ne me présente pas contre personne. Je me présente pour Montréal. Et puis, les gens, ce qu'ils veulent, c'est de l'espoir. Nous, ce qu'on leur offre, c'est de la compétence, de l'expérience et de l'assurance. Et on sait où est-ce qu'on s'en va. On veut reprendre s'assurer de reprendre les finances publiques parce que on a laissé complètement aller. J'ai l'impression qu'avec la pandémie, en plus, l'administration actuelle est complètement dépassée par les événements. Là, il y a beaucoup de vocations tardives où on se réveille, mais pendant 4 ans, il ne s'est pas passé grand-chose. Et puis, je pense qu'il est temps qu'on ramène un peu d'ordre là-dedans et puis qu'on ramène ce sentiment de fierté que malheureusement, on a perdu.
Monsieur Coderre, j'ai appris qu'un politicien ne commet jamais les mêmes erreurs. Est-ce que vous avez regretté de ne pas tout dire lors de la course automobile à Montréal?
Ben, on se rend compte que par la suite, je l'ai écrit dans mon livre, c'est que j'étais pas bien personnellement. Je vivais des moments extrêmement douloureux. Et puis des fois, tu te protèges toi-même qui puisse sembler de l'arrogance. Et quand on fait œuvre de loyauté, on sait que cet événement-là, c'était sur 6 ans. Et maintenant, c'est pas pour rien que même TVA le diffuse et puis ça va aller malheureusement à Vancouver. C'était un laboratoire d'innovation. Et, j'aurais dû à l'époque, tout à fait, on a complètement gaffé sur la question des communications, mais l'événement comme tel était extraordinaire. Et puis, à un moment donné, ben quand t'es pas l'ombre de toi-même et que tu réponds de la façon dont tu réponds, ben nécessairement, il y a eu un coup à ça. Et ça a été perçu comme de l'arrogance. J'aurais fait les choses autrement, certainement. Mais ce projet-là est formidable. Parce que l'avenir de la course automobile va passer par l'électrique de toute façon. Mais Montréal était pour perdre la Formule 1. Montréal avait besoin qu'on puisse avoir aussi de l'événement. Il faut se rappeler d'où on vient aussi à ce moment-là. Mais c'est clair que sur le plan des communications, comme j'ai déjà dit, ça a été un désastre. Alors, quand tu grandis de tes erreurs et tu es toujours plus fort quand tu te relèves, c'est pour ça que j'ai écrit une livre qui s'appelle « Retrouver Montréal ». Je me suis retrouvé et là, je pense que Montréal doit se retrouver.
On va revenir en tout à l'heure sur Montréal. Dimanche dernier, c'était la journée mondiale
de la santé mentale.
Et je me rappelle, je faisais une intervention ce dimanche en conférence. Et même le ministre de la Santé et des Services sociaux, qui est un fan de Patrick Price, et ouais, Price. Il avait fait une sortie. Et toi aussi, tu as eu quand même des problèmes qui vous a bouleversé un peu. Et vous en avez parlé.
Ouais. Ouais, je pense que ce qui est important et ce qui change, c'est que tout le monde peut vivre des moments de santé mentale. Tout le monde doit des fois faire face à soi-même. Et puis, mais il est important d'en parler. L'important, c'est de dire on n'est pas seul. J'ai vécu évidemment le pire. J'ai vu le fond du baril. J'ai pensé à des j'avais des moments noirs et j'ai pensé au pire. Je me suis ressaisi par la suite et j'ai fait ma propre résilience. Mais vous savez, en politique, on casse beaucoup de sucre sur le dos des gens. Ou quand on est une super vedette comme Carrie Price ou qu'on a un poste de décisionnel important, et il est essentiel de se rappeler de l'humain réel. Et que peu importe ce qu'on fait, on est un être humain. Et puis, c'est important de se le dire. Et quand on souffre et quand on a des problèmes, faut pas avoir peur de le dire parce que je me souviens, même après la défaite, j'avais fait une conférence devant des PDG en matière de haute technologie. On était à environ 350. On entendait voler une mouche parce que j'ai parlé de mon expérience personnelle. Et on se rend compte que le monde a mal présentement et cette pandémie-là a accentué par son isolement la santé mentale. Et quand on parle et qu'on est authentique et qu'on dit les choses telles qu'elles sont, on rejoint beaucoup de gens. Et moi, j'avais été négociateur à l'époque, Raymond, tu te souviens, comme ministre pour les pensionnats autochtones. Et la première chose qu'on apprend, c'est que le cercle de guérison commence par la reconnaissance. Alors, quand on reconnaît cette maladie ou cette tragédie ou ce moment précis, ben ça te permet d'entamer ta guérison et faire preuve de ta propre résilience. Alors, c'est pour ça. Puis moi, je faisais une entrevue sur les médias, là, et Marie-Louise Arsenault me pose une question et je me sens bien à l'aise et j'y réponds. Et bon, que j'avais des idées suicidaires et que j'ai failli me suicider, mais que au dernier moment, j'ai reculé. Mais le fait d'en parler est extrêmement libérateur. Quand j'ai écrit ce livre, je ne parlais pas de ma biographie, j'ai parlé du moment après la défaite et j'ai commencé le 8 novembre. Par la suite, je suis à Miami puis je pense au pire. Mais le fait d'en parler, c'est un exutoire extraordinaire. Et cette reconnaissance, quand tu te regardes dans le miroir et que tu n'as pas peur du mot et que tu l'assumes, c'est ça du vrai leadership et du vrai courage. C'est d'assumer son état, de le reconnaître et c'est comme ça que tu commences à grandir. Donc, c'est cette santé mentale-là, il ne faut pas juger les gens. Il faut les comprendre, il faut les accommoder. De les accompagner, pardon, et de s'assurer qu'on puisse avoir une oreille ouverte. Bien souvent, cette écoute-là est extrêmement libérateur et nous permet de passer à travers beaucoup de choses.
Alors, ce n'est pas pour rien que vous vous présentez devant les électeurs et les électrices pour la prochaine élection.
Moi, j'ai une passion pour Montréal. J'aime Montréal d'amour. J'ai été en politique, évidemment, toute ma vie, j'ai cette vocation d'être une voix à ceux qui n'en ont pas. Et puis, au meilleur de ma connaissance et de ma fougue et de mon énergie, j'ai toujours donné mon énergie pour les autres et de travailler pour le mieux-être de la communauté. Et à chaque fois, des fois, ça fait pas plaisir, mais à chaque fois qu'il y avait une situation, même si on peut, il y a des gens que ça ne plaît pas, si tu veux rien, si tu veux pas avoir de trouble, fais rien. Mais quand tu crois en ce que tu fais, que tu as des principes de vie et des valeurs inculquées par mes parents de façon admirable et que tu peux être ce trait d'union, cette personne qui est capable de ramener les gens et d'être une voix à ceux qui n'en ont pas, ben, c'est ça qui m'a toujours donné cette énergie et qui m'a poussé pour aller plus loin et d'être une meilleure personne. Et c'est en côtoyant les autres qu'on devient meilleur. Et je sens malheureusement qu'il n'y a pas de leadership présentement. Dans les 4 dernières années, on avait l'impression qu'on prêchait beaucoup plus pour ses militants plutôt que pour la population. J'ai jamais vu un Montréal aussi divisé. Et moi, ben, fort de notre expérience et fort de l'équipe que je propose, qui est une mixité extraordinaire de gens d'expérience, mais aussi de gens qui ont du vécu, hein, c'est important, qui représentent toutes les strates de la société, toutes les générations. Et puis, en faisant ça, je pense qu'on représente ce qui est Montréal. Moi, j'ai pas étudié la diversité. Nous sommes la diversité. Et puis, j'offre à la population, avec quelqu'un qui a son vécu, puis qui a grandi et dans la victoire et surtout dans la défaite, et de se dire, ben regardez, travaillons ensemble pour ramener cette lettre de noblesse. J'ai l'impression qu'il faut que Montréal se retrouve, et puis avec l'équipe et le plan que je vais proposer à tous les niveaux, tant sur la scène locale qu'internationale, on va être en mesure d'être aussi ce fer de lance, cette métropole. On n'est pas un village, là, on est une métropole. On a même un rôle à jouer sur la scène québécoise, canadienne, internationale. Quand jouer Haïti souffre présentement, et qu'on a l'impression que personne écoute à l'extérieur, y compris au Canada, bien, c'est en ayant justement les municipalités qu'une ville où il y a le cœur de la diaspora s'y retrouve qu'on va pouvoir faire une différence.
Monsieur Coderre, vous avez toujours rêvé une métropole internationale et oui. Je sais que vous avez voyagé dans plusieurs pays pour en publiciser l'importance de la grande métropole qu'est Montréal. Est-ce que la passion est toujours là?
La passion est toujours là. C'est une question d'attractivité, c'est une question de promotion, c'est une question aussi de citoyen institutionnel qui a un rôle à jouer pour le mieux-être de la société. Tout ce qui touche le développement économique ne peut pas se faire au détriment du développement social et du développement durable. Il n'y a pas de plan B à la planète. Et de plus en plus, à cause des changements climatiques, et ce qu'on voit par exemple en Haïti, ce rocher de Sisyphe, où on a l'impression que c'est toujours un éternel recommencement, on a besoin que ces hommes et ces femmes qui peuvent comprendre et qui ont cette sensibilité de ramener tout le monde. J'ai toujours parlé de ce qu'on appelle en anglais de localisation, c'est-à-dire on pense globalement et on agit localement. Et on se rend compte que avec tous les phénomènes que l'on vit, toute métropole confondue, ben c'est la même situation. Et des fois, quand on travaille ensemble, ça fait preuve. La résilience est aussi de prévenir et de s'associer avec des hommes et des femmes qui ont du vécu ou qui ont mis en place des processus. Et des fois, des amis, c'est pas juste là quand ça va bien. C'est quand il y a de l'adversité puis qu'on souffre. Alors, je ne peux pas penser à Montréal sans la communauté haïtienne, par exemple. Mais cette communauté-là, qui est aussi une diaspora, a besoin que lorsque la mère patrie souffre, d'avoir de ces hommes et de ces femmes qui sont des partenaires, des alliés et qui puissent les accompagner pour trouver des solutions. Donc, international, c'est essentiel. C'est vital.
Monsieur Coderre, pour vous, il y a 3, Montréal fait face à 3 crises majeures. Comment les définissez-vous?
Ben, écoutez, il y a la crise et il y a une crise sécuritaire. J'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi violent avec les gangs de rue, avec la violence en plein jour, où on a l'impression que ça tire et qu'on banalise. Il y a des réalités où la métropole doit prendre ses responsabilités. Et ce leadership non assumé de l'administration actuelle a joué un rôle également. Il y a un problème d'effectif. Vous savez, pas de stabilité, pas de prospérité. Et moi, je vois plein de mamans, de papas qui ont même peur de laisser sortir leur enfant pour aller dans le parc parce que ça tire à toute heure du jour. Puis c'est pas juste un coin de Montréal, là. C'est sur l'ensemble du territoire qu'il y a des situations. Et ça prend pas beaucoup, hein. On parle de plus de 450 coups de feu. Ça, c'est ce qu'on a répertorié. Mais il y a des problèmes de voie de fait. Il y a d'autres problèmes où il y a une recrudescence. Alors, au lieu de dire que ça se fait à Toronto aussi, il faut prendre le taureau par les cornes et travailler en ce sens. Il y a une crise climatique qui est claire, comme on a parlé tantôt avec le développement durable et tout ça. Donc, on a besoin de protéger notre planète. Et de plus en plus, il y a des inégalités dues au changement climatique. Et on a un rôle à jouer en ce sens. Et il y a une crise d'habitation. Il y a une crise du vivre ensemble qui fait en sorte que la sécurité, c'est pas juste c'est la quiétude d'esprit, mais c'est d'avoir un toit sur la tête. Donc, au lieu de continuellement blâmer les autres gouvernements, on s'est donné un statut de métropole qu'on n'utilise pas. Donc, on a besoin d'un leadership, on a besoin des gens qui sont, tu sais, c'est la différence entre un maire qui va assumer son leadership. Quand on va prendre le téléphone, on sera pas dans la salle d'attente. On va faire partie de la solution et on va s'imposer. On a une capacité, écoutez, la métropole, c'est 50 % du produit intérieur brut, c'est 50 % de la population et c'est un 50 % des emplois. Donc, on a un rôle à jouer. Et ce rôle à jouer, cette diplomatie urbaine n'est pas juste internationale. Elle est aussi locale, québécoise et canadienne. Et si on n'a pas ce contrepoids, qui va protéger? Il n'y a pas de région sans la métropole, mais il n'y a pas de métropole sans la région. On a laissé la métropole à elle-même. On a un centre-ville qui est déserté. Des réalités de sécurité, des réalités climatiques. Donc, on a besoin d'un coup de barre pour assurer qu'on reprenne nos lettres de noblesse. Puis, je veux pas d'une métropole dans la salle d'attente qui va attendre bien tout d'un coup que Québec ou Ottawa nous répondent. Donc, il faut aussi s'imposer et retrouver cette incontournabilité.
Monsieur Coderre, vous avez déjà eu des problèmes avec la fraternité des policiers de Montréal. Oui. Et au moment où on se parle, la brutalité policière existe encore. Et oui, cette semaine, le 1er octobre, un citoyen paisible, un homme d'affaires à Rivière-des-Prairies, sur le boulevard Maurice Duplessis, qui a un commerce, a été maltraité devant ses enfants. N'était-ce pas son épouse qui a une connaissance au niveau de la communauté urbaine de Montréal? On l'aurait maltraité davantage. Mais c'était quand même désastreux pour lui.
Mais c'est les policiers qui ont fait ça, tu me dis?
Bien sûr.
Bon, alors regardez, il y a deux choses là-dedans. C'est que il y a du profilage racial. Le racisme systémique existe. Ceci étant, la police n'est pas le problème, elle est aussi la solution. Elle n'est pas là que pour la répression. On doit s'assurer de réinventer cette police, mais il faut aussi trouver cet équilibre entre le respect de l'autorité et donner une formation adéquate et de s'assurer au niveau de l'intervention que les choses se fassent adéquatement. Donc, pour moi, il y a des modèles qui existent où on peut travailler davantage tout en s'assurant que le communautaire va avoir les outils nécessaires sur le terrain pour faire partie de la solution. Mais il ne faut pas déshabiller un pour habiller l'autre. Je suis, contrairement à Projet Montréal et aux autres, ils ont beau parler, mais avec leurs militants, ils parlent de désarmement et ils parlent de définancement. Ils ont eu une vocation tardive en dernière minute en disant qu'on va en donner plus, mais on parle de 2022. Pendant ce temps-là, ça tire encore. Donc, il faut trouver, c'est ça le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est l'équilibre entre l'ouverture et la vigilance. On a besoin d'un agenda de vigilance, mais on a besoin de s'assurer que toutes les institutions puissent aussi faire les choses correctement. Donc, on peut parler de formation, on peut assurer la représentativité, mais on n'a pas besoin d'en enlever un au détriment de l'autre, là. Et oui, quand il y a des situations, puis quand c'est intolérable, on doit agir en conséquence. Mais en même temps, on peut sortir plein d'exemples, parce que vous le savez, pendant 45 ans, à Montréal-Nord aussi, on a, par la culture, par le sport avec les policiers, trouvé des solutions du vivre ensemble puis de travailler ensemble. Mais on a deux objectifs, sécuriser le quartier, mais aussi s'attaquer aux bandits. Donc, il y a une différence des fois, je parle pas du dossier du 1er octobre, là, Raymond, mais il y a des fois où on a besoin d'intervenir également. Il faut répondre aux mamans maghrébines aussi qui disent que ça n'a pas de bon sens qu'on tire, qu'on a besoin d'une plus grande présence. Mais quand il manque 253 policiers, ben, à un moment donné, c'est du déplacement de troupes, puis il y a quelqu'un qui perd au bout de la ligne. Donc, autant on a besoin d'une bonne intervention, on a besoin d'assurer que les gens comprennent la réalité de la diversité, mais c'est pas en promettant le définancement et le désarmement ou de blâmant puis de pointant ou traitant les policiers d'assassins qu'on va régler le problème aussi. Donc, moi, je pense qu'il faut cet équilibre et on a besoin de tous. Travaillons en mode solution et assurons une prévention pour pas que ça se reproduise.
On est en période de pandémie, M. Coderre, hein, et oui. Je vois que vous avez deux, et je pourrais dire, hein, deux versions différentes entre la mairesse et vous sur la question des vaccinations. Et vous, vous êtes pour la vaccination des employés de la mairie de Montréal, et la mairesse, pas tout à fait. Et vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Vous savez, M. Laurent, moi, je refuse un leadership où on va attendre après les autres tout le temps. Et quand c'est bon, c'est de sa faute. Puis quand ça va mal, c'est à cause des autres. Alors, à un moment donné, il faut que tu t'assumes. On est une métropole, là. Et puis, s'il y a 90 % de la population qui s'est fait vacciner, même Yves Francoeur, le président de la fraternité, a dit qu'on devrait avoir une vaccination obligatoire. J'ai pas besoin d'attendre le mémo à gauche et à droite, comme au niveau du masque, où on se disait qu'on n'était pas capable d'en avoir. Quand moi, pendant ce temps-là, je travaillais à la fondation de l'hôpital général juif et je savais comment on pouvait s'en procurer. Donc, à un moment donné, là, il faut aussi s'assumer. Et s'assumer, ça veut dire que 28 000 employés, ces employés-là qui ont un rôle à jouer avec la population, faut pas qu'ils deviennent des objets de propagation du variant. Donc, on est en train de travailler pour assurer que les 5-11 ans puissent se faire vacciner. On a besoin de politique d'accompagnement, mais je pense qu'il faut montrer notre propre exemple. Alors, cette façon dont l'administration réagit, comme dans plein de façons, c'est toujours la faute des autres, puis c'est toujours attentiste. Alors, voulez-vous voir un maire ou vous voulez avoir une salle d'attente? C'est ça la question. Alors, moi, je vous dis que autant vous avez des gens de première ligne qui sont présents, on peut le faire de façon correcte, on peut se parler, mais l'objectif doit être le même. Alors, pour moi, j'ai vraiment pas de problème à dire, moi, j'ai été vacciné deux fois. Mon propre père qui a 90 ans, puis ma mère a 83 ans, qui ont été vaccinés. Bon, on va les mettre en péril parce que certains regardent trop YouTube, puis qu'ils regardent des vidéos, puis qu'ils sont anti-vax, et puis qu'ils vont dire n'importe quoi. On est capable de se parler, tant au niveau de la santé qu'au niveau de la ville. Travaillons ensemble de façon, et assurons-nous que nous faisons partie de la solution.
Alors, ma dernière question, est-ce que le baseball va retourner au stade olympique?
Le baseball, s'il revient, ça sera pas au stade olympique. On peut organiser des matchs, mais pour moi, Raymond, l'avenir du baseball, c'est Québec qui l'a entre les mains. Le premier ministre Legault a un dossier entre les mains puis doit prendre une décision. Moi, ma priorité, tant mieux s'il revient. Ma priorité pour l'instant, c'est de combattre parce que la pandémie existe toujours. Il y a des réalités économiques, il y a des réalités de sécurité. On va mettre les priorités à la bonne place. On va laisser parce qu'on me dit que c'est après le 7 novembre qu'ils vont le sortir. Donc, on va laisser les promoteurs faire leur travail. Les promoteurs nous ont dit, de toute façon, qu'il n'y aura pas un sou qui va aller dans le stade comme tel, dans un nouveau stade. Alors, on va laisser aller. On traversera le pont quand on arrivera à la rivière. Mais ma priorité pour l'instant, c'est de m'assurer qu'on puisse avoir un Montréal sécuritaire, un Montréal juste, un Montréal qui se comprend et surtout un Montréal pour toutes et tous.
Alors, si vous avez un message à lancer aux gens qui nous écoutent actuellement...
Mon message est simple, Raymond. Allez voter. Vous me connaissez depuis de nombreuses années. Je suis votre frère, je suis votre allié. Puis c'est pas tout le monde qui est d'accord avec moi, puis je respecte ça. Je pense qu'il y a des pays dans le monde qui meurent parce qu'ils n'ont même pas le droit de la dissidence. Puis l'institution de la démocratie, c'est fragile, comme une fleur, comme une perle, il faut l'entretenir. Alors, j'ai besoin de vous. Nous avons une équipe formidable. Nous avons des hommes et des femmes qui vont travailler pour le mieux-être, pour le bien-être de Montréal. Si vous voulez vous assurer d'avoir de la compétence, de l'expérience et de l'assurance, ben, Ensemble Montréal, c'est le signe d'espoir. On a besoin de vous. On a besoin que vous alliez voter. On a besoin que le 7 novembre, ensemble, on puisse fêter. Rémy Moun qui Rémy On.
Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. Et je vous souhaite bonne chance. Et la semaine prochaine, on va recevoir votre adversaire au même micro, M. Coderre. Bonne chance.
Mon cher Raymond, c'est toujours un plaisir de te parler. Je vous embrasse. Et pardon en premier, je salue et je remercie de la communauté d'être toujours présent à ton émission que j'écoute religieusement. Napkabé fort, petit.
Alors, merci. C'était M. Denis Coderre, chef du parti Ensemble Montréal. Une petite pause et je vous reviens. Alors, et comme nous connaissons Yves Basile, c'est Maître Corps qui veille corps. Alors, et Nabdimonio prend les précautions nécessaires. Et ça, au moins des noms, c'est lui. Et pas fait être raide. Il y a mon qui des anti-vaccins. Il est toujours là. Et nous connaissons qu'il y a une grande controverse dans les affaires vaccins. Et, mais nous-mêmes, nous n'avons pas eu anti parce que conditions santé n'ont pas permettre que nous fassions ça. Alors, et nous voyons que le gouvernement il fait en pile sensibilisation. Et si nous, dans les publicités qui passent dans toute radio, Yves Basile, sous affaire vaccin, alors, c'est pas blague. Il a dépensé en pile comme pour ça. Alors, et nous toujours remercier Mme Louise Burns, qui est infatigable, avec toute l'équipe technique que le gagnait, Spencer. Et Napsali Georgia également, Tamara, ou l'autre Tamara, Yves Basile. Et nous connaît tout de suite, après samedi midi inter, c'est Funky Revolution qui prend le poulain antenne. Et semaine dernière, là, forme du Yves Basile, nous avons des Funky, des bonnes séries de petites musiques engagées, elle a passé.
Aïe.
Une série de petites musiques engagées, elle a passé. Forme du, c'est Rololoï. Et n'a profité d'inviter Monio encore une fois. Nous attendons la voix de Yannick Cavana qui a fait une levée de fonds avec un pile gros mono, vas-y. La fille du défunt Guy Durosier a participé dans ce spectacle-là. Comment africain ça arrive là, quoi? Bambara, c'est ça? En tout cas, de toute façon, je crois que nous songeons que M. était un petit problème. Des fois, il y a des gens qui pensaient que peut-être la pâte tellement fine bien, vous comprenez? Mais c'est quand même un bon comique. Alors, il y a un pile artiste. Et... Comment?
Oui, on va continuer, Raymond.
C'est oui, vrai. Alors, il faut que moi, dis non, c'est pour un curé dans le sud-là. Et que l'école, côté qu'elle était hier, eh bien, ils voulaient faire une campagne de financement pour aider les gens. Alors, à l'engager, à l'aider. Alors, c'est pour une bonne cause. Même si nous-mêmes, nous avons décrété la permanence pour GISROM, eh bien, tout le monde a fait bien. Ce n'est pas pour tête qu'il y a travail. Eh bien, nous avons dit encourager les gens à l'évasion. Alors, sur ce, c'est Yves pour le dernier mot, pour nous terminer.
Bon, moi entendez tout ça qu'on dit là, yo, c'est vrai, c'est une bonne cause et puis donc mon yo supposé prendre des précautions, préveiller quoi non, pas oublier, Covid là pas ban nous chance. Donc laver mais non, mettez masque non, pas fait têtu parce que le pape mène nous nulle part. Et ça dit là, il m'ont dit pas menti non, il y a des fois senti ba là dégoûtant. Chaque poste radio ouvre, et puis c'est COVID. Écoute, on a besoin de vivre aussi.
Alors, n'a pas dit, François Turenne encore, bon travail, et puis n'a pas salué Brady Donissin, et puis n'a pas dit tout le monde, à samedi prochain, même heure, même poste, pas oublié, t'entendre à soir, à partir de 8 heures, avec ses collaborateurs. Ciao.
Bonne occasion, pour mesdames, ça c'est du garçon. Funky Revolutions for the fattest of the funk and other liberation musics. Saturdays 2 to 4 p.m. Pure funk and the shuffle of people marching in the streets on CKUT 90.3 FM in Montreal.
Everything I do gonna be funky.
Revolution.
On était chez nous. On était chez nous.
On était bien chez nous.
On était chez nous.
On était aisé chez nous.
On était civilisé là. Civilisé là. On était chez nous.
On était bien chez nous.
On vivait en communauté. Pour nous. Les soirs, on faisait les contes des gens sous les arbres à palabre. Il y a eu choc de culture. Herbato s'est accosté. Ce choc de culture nous a désorientés. Désorientés, On était chez nous.
On était bien chez nous.
On était chez nous.
On était aisé chez nous.
On était civilisé là. Civilisé là. On ne connaissait pas l'argent. On ne connaissait pas ABCD. On ne connaissait pas l'alcool. On était chez nous.
On était bien chez nous.
On était chez nous.
On était aisé chez nous.
C'était un beau jour.
Ils
ont débarqué. Ils ont été bien accueillis. Là j'étais content. Ces jours-là ils ont prononcé l'amitié et la fraternité. Ils ont prononcé l'égalité. Ils ont dit qu'ils vont nous aider. Ils ont installé les écoles et recrutement forcé. C'était aller à l'école forcée, aller dans l'armée forcée. Ils ont installé l'administration et commencé à demander l'impôt. Voilà comment on a acquis mon déracinement. Et ma désorientation, oui, Kala. On était chez nous.
On était bien chez nous.
On était chez nous.
On était aisé chez nous.
On était civilisé là, civilisé là. Il y avait des nez. Ses enfants grandissaient avec la médecine, médecine traditionnelle, 100% traditionnelle. Il y a eu choc de culture. Ce choc de culture nous a désorientés, désorientés.
On était
civilisé là, civilisé là.
mais ils n'ont pas partagé la technique et la technologie. Ah, c'est vraiment dommage.
On était bien chez nous. On était aisé chez nous. Pour ce genre de culture. On était bien chez nous. On était aisé chez nous.
Entre rythme et révolution, nous présentons les archives magnétiques du Mothership Funky Revolutions. 25 ans de programmation sur CKUT. Épisode 20 présente deux des grands reggae-man de l'Afrique, de la scène francophone, Alpha Blondy et Tikenja Fakoly. Des entretiens réalisés entre 1996 et 2007. Avec deux des grands reggae-man de ce continent, luttant contre la corruption, la politiquerie.
Dans mes albums, j'ai toujours défendu l'Afrique, j'ai toujours parlé de l'Afrique, de revaloriser un peu l'Afrique, dire aux gens, bon voilà, j'ai dénoncé le comportement des hommes politiques en Afrique, j'ai dénoncé la politique, l'ingérence, je dirais, de l'Occident dans la politique africaine. J'essaie de parler, pardon, de l'unité africaine. J'essaie aussi de dire à tous ceux qui n'ont pas encore mis les pieds en Afrique d'arrêter de mal parler de l'Afrique, parce que l'Afrique c'est un continent d'hospitalité, de fraternité, c'est un continent où il y a de belles choses à voir. Je fais appel à toute la diaspora, je fais même appel à tous les frères des Antilles, Jamaïque, Martinique, Guadeloupe, je leur dis de regarder vers l'Afrique parce qu'ils ne sont, ils ne seront pas d'autres personnes que des Africains.
Val dira ta mère, tu val dira ton père. Pas des paroles en l'air. Va le dire à ta mère, tu vas le dire à ton père. Il faut élucider tout maintenant, tous ces mystères. Certains disent génocide et d'autres parlent de guerre. Va le dire à ta chair, c'est le droit de le faire. Darkman s'inquiète pour toi, s'inquiète pour ses frères. Je garde espoir, je vois, oui, petite lumière. Certains disent génocide et d'autres parlent de guerre. Va dire à ta chair, c'est ton devoir de le faire. Darkman s'inquiète pour toi, s'inquiète pour ses frères. Je garde espoir, je vois empire de lumière. Va le dire à ton père, ou va le dire à ta mère. Écoute bien ce style, c'est pas des paroles en l'air. Va le dire à ta mère, ou va le dire à ton père. Ce style, c'est pas des paroles en l'air. À présent, oui, je rentre dans le but du sujet. Pour parler de ceux qui ont été malmenés. Je parle des enfants qui ont été calcinés. Je parle de mes sœurs qui ont été violées. Je parle de mes sœurs qui ont été violées. On est comme des oiseaux en cage qui ne peuvent plus voler. Assoiffé de joie et de liberté, un diabolique système en train de diriger. Va dire à ta mère, tu vas dire à ton père. Écoute ce que je dis, alors de ce que je pense. Va dire à ta mère, tu vas dire à ton père. Écoute ce style, c'est pas des paroles en l'air.
Yeah.
ferai passer toi la vie. Car le temps de l'angoisse et la peur, c'est bientôt fini. Femmes et hommes tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Si n'avais pas l'habitude de bosser, maintenant tout va changer. Femmes et hommes tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Si n'avais pas l'habitude de bosser, maintenant tout va changer. Ceci est la dure et triste réalité. Ceci est la dure et triste réalité. Écoute bien ce style, écoute bien ce récit. So crying blood, so crying blood. Well, well, so crying blood. So crying blood.
For your mind and for your hips, this is music from the mothership. The Cassette Archives, celebrating 25 years of Funky Revolutions. Episode 20. Two of the great reggae Franco-African stars. We present interviews with Alpha Blondie and Tikenja Fakoly.
Cette philosophie qui fait une race supérieure et une autre inférieure ne sera finalement et permanemment discréditée et abandonnée. Partout sera la guerre, c'est la guerre. Dans toutes les nations, tant que la couleur d'un humain aura de la signification comparée à ses yeux, et j'en passe. Tant que les droits universels ne seront attribués à tous sans distinction de race, et j'en passe. En attendant ce jour, le rêve d'éterniser la paix entre citoyens du monde ne sera qu'une illusion désespérée, qu'il faudra pourtant trouver les moyens de transformer en réalité. Et partout c'est la guerre, c'est la guerre, guerre. Que ce misérable malheureux régime tiendra nos frères en Angola, Angola, au Mozambique, en Afrique du Sud, doivent cesser de sévir, complètement abolis. Et partout c'est la guerre, c'est la guerre, guerre. En attendant ce jour, le continent africain n'aura pas de paix. Nous, Africains, nous nous battrons si cela est nécessaire. Et nous savons que nous vaincrons, car nous sommes confiants. La victoire finale.
Tiré de l'album sorti en 1995 ici au Canada, Alpha Blondie and the Solar System et Dieu. La chanson, une interprétation de Alpha Blondie, La guerre, ou d'après la chanson War,
un des grands fondateurs de la musique reggae, Bob Marley et The Wailers. Mon nom est Khalid M. Sefar, vous êtes bien à l'écoute de Sécurité 90,3 MF à Montréal, les ondes du peuple. Et c'est notre honneur et notre très grand plaisir d'accueillir en studio M. Alpha Blondy. Bienvenue.
Merci Khalid.
Vous allez être en spectacle mardi et mercredi ici à Montréal. Et c'est à chaque fois que vous venez ici, le dernier spectacle que vous avez donné est tellement, tellement bien accueilli. Des bons vibes ont été partagés et le mot a été partagé dans la communauté. Je voudrais commencer par vous demander, vous êtes né en 1953, c'est ça?
C'est ça, exactement.
En Côte d'Ivoire, vous travaillez en Côte d'Ivoire, vous avez quand même vécu à New York. Mais parlez-nous un peu de l'arrivée de la musique reggae en Afrique, qui vous a commencé sur cette voie dans votre vie, avec le côté musical, mais aussi le côté spirituel, le Rastafari.
Mais si on veut faire la genèse de la musique reggae, des liens entre la musique reggae et le continent africain, je dirais que le jour où les premiers Africains sont partis en captivité dans les îles, que ce soit la Jamaïque ou les États-Unis ou le Brésil ou les Antilles, à partir de ce moment-là, déjà le reggae était né. Parce que le reggae est le cri de révolte des esclaves, des Noirs, des Africains. Et aujourd'hui, avec le temps et les nouvelles instrumentalisations, le reggae d'abord est parti d'un truc tout bête qu'on appelle le Pokomania, qui est une musique très très rituelle. Et puis de fil en aiguille, c'est devenu ska, etc., etc. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est une musique faite par des Africains, et le retour de cette musique en terre africaine n'est qu'une logique. Et je pense que les Jamaïcains sont les premiers à avoir conscientisé la diaspora noire à travers le monde et le continent, leur amour pour l'Afrique, le retour vers l'Afrique. Et un enfant comme Alpha Blondy ne pouvait pas échapper à cet appel du pied, à cette prise de conscience. Et moi, je suis séduit par le message spirituel et sociopolitique de cette musique. Et en tant qu'enfant du tiers-monde, on a tous les mêmes blessures. Nous connaissons tous la morsure de la pauvreté, la morsure de l'humiliation d'être pauvre. Donc, j'étais condamné à faire du reggae si je voulais moi aussi conscientiser les miens sur le territoire d'Afrique, pour les faire prendre conscience que nous avons découvert une musique de par le biais de nos frères de la Jamaïque qui peut toucher les masses, qui peut conscientiser les politiques et qui peut aussi réveiller en eux une sorte, je ne dirais pas une sorte de rébellion, de révolte, mais une façon de se surpasser, de dire que la pauvreté, ce n'est pas un sort qu'on nous a jeté et que ce n'est pas non plus une profession, et que tout Africain, où que vous soyez, vous devrez prendre votre blessure pour en faire un engrais, pour faire pousser cet arbre, la liberté.
Votre musique engage des appels pour la justice, des dénonciations de la corruption, des politrucs, de la souffrance, suffering, qui est partie intégrante de la conscience de reggae, et comme vous indiquez aussi, peut-être aussi la conscience de cette diaspora. Je me demande, depuis que vous avez commencé à chanter et enregistrer dès le début des années 80, est-ce que cet espoir est le même pour vous vis-à-vis l'Afrique, l'espoir qu'elle a vu, le ravage des guerres qu'on vit en ce moment, qu'on a vécu après les indépendances et depuis, les ravages économiques, les ravages environnementaux, la santé humaine, ces crises-là qu'on vit en Afrique, comment est-ce que l'espoir qui vous a conscientisé, qui vous a donné cette énergie spirituelle, culturelle que vous venez de décrire, comment est-ce qu'elle a changé par rapport à l'Afrique? Est-ce que c'est la même situation? Est-ce qu'il y a plus d'espoir, moins d'espoir? Ou est-ce que c'est encore une question de puiser cet engrais que vous venez de nous rappeler?
Je crois que l'essence même de la lutte, c'est notre foi en Dieu. Et quand on fait un combat en prenant Dieu comme allié, et que Dieu, on le sait, intemporel, alors le combat, il est intemporel. Ok? Ça veut dire que tant qu'il y aura des misères, tant qu'il y aura la souffrance de certains peuples par rapport à d'autres, le combat continuera. On n'est pas des losers. On ne veut pas accepter cette triste fatalité, parce que nous savons très bien que c'est écrit, béni soient les derniers, car ils seront les premiers. Et aujourd'hui, personne ne peut comprendre que nos ancêtres, nos grands-grands-grands-grands-parents, si tu leur parlais d'une radio black, ils allaient rire, c'est pas possible, c'est utopique. Si tu leur parlais de black pilote d'avion, ils vont dire, mais arrête, tu as trop bu ou tu as trop fumé. Et non, mais l'espoir que nous avons fondé en l'avenir est en train de nous donner raison. C'est pour cela que le combat n'a même pas encore commencé. Nous sommes pour le moment dans la phase d'échauffement. Un jour viendra, un jour vraiment viendra, où là, on pourra parler du commencement du combat. Quand nous aurons vaincu l'analphabétisme, quand nous aurons, avec nos politiques, okay, quand nos politiques auront étudié dans des grandes universités, et que ce ne sera plus des demi-lettrés, quand nous aurons appris à transformer nos matières premières, alors nous pourrons parler en ce moment de vraie liberté, de vraie autonomie. Mais pour le moment, ok, nous sommes à la phase d'échauffement. Comme on dit chez nous, le fétiche, on l'habille en secret.
Et donc, le combat dans un... que vous engagez, que vous décrivez, est-ce que donc ça se serait en partie dans l'esprit humain, et c'est là qu'il y a vraiment la bataille d'une certaine manière sur les fronts de l'éducation, de empowerment, de la possession, dépossession?
Oui, le combat avec les armes, ça fait trop sauvage nucléaire, ça fait trop singe nucléaire. Nous voulons mener un combat brain to brain. C'est-à-dire, c'est un combat de cerveau, de savoir. Et c'est plus élégant et c'est plus loyal. OK? La haine bestiale où on sort les sagas, où on prend les kalachnikovs, vraiment, j'appelle ça les singes du 20e siècle, du 21e siècle, ou les singes du 3e millénaire. Et nous voulons donner cette leçon de combat nouveau. OK? Qui est ce qui sera le combat des cerveaux. OK. Pour que on parle de misère aujourd'hui, de guerre civile idiote en Afrique, je vous dis encore que ces gens ont péché par ignorance et par analphabétisme. La majorité de populations sont analphabètes. Donc voilà pourquoi il y a une sorte d'incompréhension entre la base et ceux qui sont au sommet. Et quand nous aurons mis le pont intellectuel, le pont qui permettra à la base et au sommet de s'entendre, là, on pourra parler d'un vrai démarrage. Je n'appelle pas nos indépendances aujourd'hui des indépendances. J'appelle ça des dépendances.
Quand vous parlez de Dieu, de ce combat, vous chantez dans plusieurs langages, au moins 5. Vous engagez dès vos des premiers albums les conflits, les grands conflits entre les religions, ou que derrière lequel une certaine politique au Moyen-Orient, en Israël, des symboles et des actualités très importantes pour votre musique au niveau de l'écriture, de l'inspiration, je crois, de mon interprétation. Que direz-vous donc votre conception de Dieu qui est véhiculée dans la musique reggae, dans le rastafarianisme, le rastafari, au sens qui va à l'encontre de ces guerres, des grandes idéologies fondamentales qui sont à l'œuvre aujourd'hui, dans ces grandes guerres au Moyen-Orient, par exemple, en Israël, mais un peu partout dans le monde où il y a l'essor musulman, par exemple. Comment est-ce que vous, c'est quoi le Dieu, les cultures de Dieu que vous voulez faire épanouir dans votre musique?
La plus belle définition de Dieu que j'ai retenue, c'est « Dieu est un silence éloquent ». Et moi, je me suis toujours méfié des religions. Pourquoi? Parce que les religions nous divisent. Mais Dieu nous unit. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris le côté le plus simple de la chose. Dans les trois livres monothéistes, que ce soit la Torah, la Bible ou le Coran, j'ai puisé le nom de Dieu. C'est l'essence même dans ces trois livres. Donc j'ai décrété que Dieu était ma religion. Mais aujourd'hui, le Coran met en garde, la Bible d'ailleurs, le Coran met en garde, la Bible aussi dit qu'il faut se méfier des prévaricateurs. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se mêler aux croyants et qui vont utiliser le nom de Dieu à des fins personnelles. Parce que ceux-là, comme dit Corinthiens, n'ont pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Israël, moi j'ai été à Jérusalem, j'ai été séduit par Jérusalem. Pour moi, Jérusalem est une écriture, une alliance entre l'homme et Dieu, si tu veux, entre Dieu et homme. Et ça m'a rendu très optimiste. Je ne me laisse pas distraire par ce courant de pessimisme qui traverse les ondes, à la télé ou à la radio, ce conflit fratricide entre les frères d'Israël et les frères de la Palestine. Jérusalem m'a donné l'espoir qu'au commencement, il y avait l'entente. C'est pour cela qu'à Jérusalem, tu as le Dôme du Roc, qui est la mosquée d'Omar. Tu as le Saint-Sépulcre, qui est la tombe du Christ, de Jésus. Et tu as le mur de lamentation. Et si on veut faire cette trilogie, la loi trinitaire est là. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et cette écriture, quand je l'ai lue, je me suis dit, un jour viendra où le problème israélo-palestinien aura une solution spectaculaire, une solution spirituelle. Et les fils d'Israël et les fils de la Palestine se regarderont avec les larmes au fond des yeux. Parce que l'alliance de Jérusalem aura triomphé ce jour-là, triomphera ce jour-là. Donc, moi, le Dieu dont je parle, le Dieu qui a fait Alpha Blondie, est un Dieu d'épreuve, qui nous enseigne. Des fois, c'est douloureux. Mais Dieu ne fait rien pour faire mal. Donc, nous avons souvent mal, parce que c'est comme quand on te fait une injection pour te soigner de la malaria. Ça fait mal aux fesses, mais après, quand même, ça soigne la malaria. Donc, moi, voilà l'image que j'ai du Créateur. Je suis très optimiste.
Vous répondez en fait à la question que je voulais vous poser sur Jérusalem, c'est ce symbole. Je pense, comme vous en avez parlé, on pourrait entendre cette chanson qui a eu un succès mondial pour vous au début de votre carrière, et après on pourrait revenir et parler d'autres pistes dans votre musique et de ce sound system, le solar system qui vous a accompagné pendant tant d'années. Donc, Alpha Blondy est notre invité sur les ondes du peuple. On reviendra après cette chanson à Jérusalem. Il est en spectacle mardi et mercredi au Metropolis. In studio, live with us, is the great African super reggae superstar Alpha Blondy. This was one of his hits, Jerusalem. We'll be back to talk and continue our conversation with Alpha Blondy. He's at the performing at the Metropolis this coming Tuesday and Wednesday. This is your Mothership Connection, Funky Revolutions.